Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Genèse chapitre 5, les versets 1 à 32, tout le chapitre. Genèse chapitre 5, tout le chapitre. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Puis il mourut. Seth, âgé de 500 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Enoch vécut après la naissance de Kénan 815 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans, puis il mourut. Kénan, âgé de 70 ans, engendra Mahalaleel. Kénan vécut après la naissance de Mahalaleel 840 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kénan furent de 910 ans, puis il mourut. Mahalaleel, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Mahalaleel vécut après la naissance de Jéred 830 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalaleel furent de 895 ans. Puis, il mourut. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methuselah. Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Methuselah, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Methuselah vécut après la naissance de Lémec 782 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Methuselah furent de 969 ans. Puis il mourut. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant, « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Lémec vécut, après la naissance de Noé, 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cam et Japhet. Alors, j'ai intitulé la leçon d'aujourd'hui, le sermon d'aujourd'hui, « La visite du cimetière d'Adam à Noé », parce que dans le fond, quand on regarde le passage, c'est ça que ça se passe, il nous montre que durant la période d'Adam jusqu'à Noé, il y a eu, ça va nous révéler le caractère de Dieu. Alors, ça va révéler sa fiabilité. Autrement dit, quand le Seigneur dit quelque chose, on peut se fier sur ce qu'il nous dit. Ça va nous révéler aussi sa fidélité, dans les versets 21 à 24, et ça va nous révéler sa finalité, versets 25 à 32. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand vous passez dans les Écritures, puis vous lisez des passages de généalogie, comme celui-là, on trouve ça un petit peu difficile, n'est-ce pas? C'est des noms, des chiffres, et à quelque part, on est porté des fois à passer rapidement sur ces passages-là. Et non seulement les passer rapidement, mais on les trouve difficiles. On peut même aller jusqu'à les trouver ennuyants, n'est-ce pas? Si on s'avoue un petit peu ce qui se passe dans nos cœurs quand on lit ça. Et ensuite, pour ne pas dire inutile, on se dit, veux-tu bien me dire? Par exemple, prenez les 16 premiers chapitres de 1 Chronique, qui sont une énumération presque sans fin de noms. On se dit, veux-tu bien me dire que ça fait là, pourquoi c'est là, alors que les Écritures nous disent que toute Écriture est inspirée de Dieu, soufflée de Dieu. Alors, quelque part, si l'Éternel a jugé de mettre ces passages-là dans les Écritures, c'est parce qu'ils sont importants. Et ça, c'est, voyez-vous, des fois, en étudiant un passage, Dieu veut corriger quelque chose en nous qui n'est pas correct. Parce que quand on considère des passages plates, c'est qu'on est en train de dire à Dieu, t'es plate. À quelque part, il faut se corriger et savoir que le passage, même s'il est difficile, a sa raison d'être. Alors, c'est ce qu'on va, on va essayer de regarder ce matin. Alors, 2 Timothée 3,16, qu'est-ce que ça nous dit? Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, instruire, etc. Alors, convaincre, instruire, corriger. Donc, les Écritures aussi sont censées nous corriger de certaines choses qu'on a. Et quand on a une mauvaise attitude face à certains passages des Écritures, Dieu veut qu'on corrige cette attitude-là. Les passages où il y a des noms comme ça sont riches d'enseignements, malgré l'apparence. Ils nous enseignent de plusieurs façons. Vous allez voir ce matin, il y a quelque chose d'intéressant que quand on lit rapidement ou quand on n'étudie pas le passage, on passe complètement par-dessus, on ne le voit même pas. Cependant, Dieu nous enseigne des fois même par les noms. Comme je vous avais déjà mentionné, les noms des Écritures, ça a une signification profonde. Et ce matin, vous allez voir quelque chose, alors on va regarder tous les noms qui sont mentionnés dans le chapitre 5, et ça va nous révéler quelque chose d'extraordinaire quand on traduit les noms, parce que c'est des noms hébreux, quand on les traduit, ça a une signification. Puis si on les traduit, on voit que les noms, à partir du premier jusqu'au dernier, révèlent le salut de Dieu. La première fois que tu découvres ça, tu dis, C'est vraiment profond, là. Alors, il faut arrêter de considérer les passages comme ça, des fois qu'on peut trouver ennuyeux à première vue, et toujours se questionner puis dire, si je l'étudiais plus en profondeur, si je l'examinais avec plus de sérieux, si je prendrais pour acquis que Dieu ne met jamais rien dans les Écritures sans raison, et que le passage est utile. Alors, souvent, dans ces passages-là aussi, il y a des éléments qu'on appelle prophétiques. Donc, des éléments qui veulent parler de choses concernant Christ, soit qui vont venir plus tard. On va le voir tantôt avec les noms, on va un petit peu plus tard dans le sermon. Les noms sont là, et si on les traduit en français, puis qu'on les lit de haut en bas, ça donne une histoire du salut. Quelque part, moi, je trouve ça extraordinairement beau. Alors, quelle est l'utilité des généalogies? Premièrement, ils établissent la chronologie biblique. Par exemple, 1 Chronique 16, les 16 premiers chapitres de 1 Chronique, nous donnent, à partir d'Adam, et ils développent tous les noms. Ces noms-là peuvent nous aider à démontrer que la théorie de l'évolution est fausse, parce que ça ne se peut pas. Si vous prenez ça génération par génération, ça ne se peut pas que ce soit des millions et des milliards d'années comme on enseigne aujourd'hui. Alors, ça établit la chronologie biblique. Autrement dit, il y a des éléments qui concernent le temps qui sont développés dans ces passages-là. La deuxième chose, donc à quoi ça sert, les généalogies, ça établit des appartenances à la race juive. Ça établit aussi des appartenances à des tribus. Ça établit aussi le droit du service au temple. Par exemple, on peut dire, est-ce que les Écritures prophétisaient que Jésus serait de la tribu de Judas? Oui. Alors, quelque part, c'était important que de savoir que généalogiquement, Jésus descendait de ce qui avait été prophétisé sur lui de Judas. Aussi, les gens qui voulaient servir au temple, il fallait qu'ils soient des Lévites, donc de la tribu de Lévi. Et comment une personne pouvait-il dire « Moi, j'ai le droit de servir comme sacrificateur » C'était uniquement à cause de la généalogie. Il fallait que tu te souviennes que ton père était un Lévite, que ton grand-père était un Lévite, que c'était de génération en génération. Alors ça, c'était une des choses, une des utilités de, euh, Le droit de succession à la couronne. Par exemple, des fois, même ça marche encore en Angleterre, en France, ils n'ont plus de roi, mais en Angleterre, qu'est-ce qui fait qu'une personne peut devenir roi ou reine si c'est si sa généalogie? Mon père, ma mère, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Alors, dans la Bible aussi, le droit de succession à la couronne était établi par les généalogies. Aussi, le souverain sacrificateur, qui est d'une profonde signification, parce qu'on dit de Jésus qu'il est le souverain sacrificateur, lui aussi, il fallait qu'il soit d'une certaine tribu. Et le droit aussi à la direction d'une tribu. Oui, on vient d'en voir différentes utilités, mais c'est pas fini. Les généalogies servent aussi à établir la légitimité de la lignée royale du Messie promis. Quand vous lisez Matthieu 1, qu'est-ce que le Seigneur... Parce qu'on dit souvent de Matthieu, l'évangile de Matthieu, c'est l'évangile où on veut présenter Jésus comme étant le roi. Donc, c'est l'évangile royal. Dieu permet que le chapitre 1 nous montre à partir d'Abraham jusqu'au Christ. Si vous lisez le passage, quand on lit ça, ben, fils d'un, fils d'un, fils d'un, il arrive jusqu'à Joseph, il arrive jusqu'à Marie. Et dans le fond, Matthieu, vu que c'est l'évangile royal, il nous emmène jusqu'à... Mais vous en avez un autre, celui qui est dans Luc chapitre 3, les versets 23-38. Si vous remarquez, l'évangile de Luc, on dit que c'est l'évangile où on veut présenter Jésus homme. Matthieu, Jésus roi. Luc, c'est Jésus homme, donc l'homme. Et quelque part, là, si vous regardez la généalogie, elle ne part pas d'Abraham pour se rendre jusqu'à Jésus, elle part d'Adam. Pourquoi qu'elle part d'Adam? Parce qu'elle veut démontrer que Jésus est un homme et que sa descendance part d'Adam et qu'elle se rend jusqu'à lui. Ces passages-là ne sont pas inutiles, sont loin d'être inutiles, sont extrêmement importants. Alors, nos attitudes face aux passages généalogiques doivent être changées en les respectant, en les lisant attentivement, en les étudiant, parce que certaines portions des Écritures ne nous révèlent pas leur bénédiction à moins de les étudier. Alors, examinons maintenant comment notre chapitre révèle le caractère de Dieu et révèle aussi comment Dieu est fidèle dans le fait qu'il a dit que la lignée royale du Messie. Alors, on va regarder versets 1 à 20, la révélatrice de la fiabilité de sa parole. Fiabilité de sa parole, il faut se rappeler la promesse de Dieu dans Genèse 3:15. On avait déjà mentionné que Genèse 3:15, c'est le passage de Dieu où Dieu dit qu'il va envoyer un Messie. Et je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors on le sait, les promesses divines s'accomplissent toujours. Cependant, ce qu'on doit se souvenir, c'est que les accomplissements de la parole divine ne se font pas toujours selon nos critères chronologiques. La preuve, c'est quand on l'étudie Genèse un petit peu plus en profondeur, on se rend compte que beaucoup de ceux qui étaient au début dans le livre de la Genèse ont cru que le Messie était sur le bord d'arriver. Comment ça a pris de temps avant qu'il vienne? 4 000 ans. Alors, notre façon de voir comment Dieu accomplit sa promesse et la façon de Dieu, ce n'est pas la même affaire du tout, du tout. Parce que les critères de temps de Dieu et nos critères à nous, la preuve, quand on prie, nous, qu'est-ce qu'on veut? On voudrait un accomplissement, comme on dit, hier. Mais Dieu fonctionne pas comme ça. Ça ne veut pas dire que si vous avez demandé quelque chose, que vous ne l'obtiendrez pas s'il n'y a pas d'obstacle à l'accomplissement de la prière dans vos vies. Mais il faut se réaliser que le temps de Dieu n'est pas notre temps à nous. Alors, quand on regarde la parole, le verset 5, les versets 1 à 5, il nous parle de, il dit, voici le lit de la postérité d'Adam. Alors, il commence à Adam. Après ça, il dit, lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Et il créa l'homme et la femme, il les bénit, il les appela du nom d'homme. Lorsqu'ils furent créés, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, Après la naissance de Seth furent de 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Voyez-vous, suite à la fin du verset 5, il y a une mention, un rappel de Dieu. Qu'est-ce qu'il avait dit que si il mangeait du fruit de l'arbre, qu'est-ce qui arrivait? Tu mourras. Et là, on arrive à la fin. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. La fidélité de Dieu dans l'accomplissement. Alors ici, dans les versets 1 à 5, il y a plusieurs choses qui nous sont révélées sur le fait que Dieu a accompli sa promesse. Il nous rappelle des faits concernant les hommes. Il nous dit, premièrement dans le verset 1, que l'homme est une créature. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu dans les librairies, vous allez voir des livres où on veut démontrer que l'homme est Dieu. Je me souviens d'avoir déjà lu un titre de livre, ça disait « Je suis Dieu, wow! » Alors, ici, il y a comme une chose importante qui nous est révélée. L'homme est une créature. Il n'est pas Dieu. Autre chose qui nous est révélée, c'est que l'homme est une créature récente. Il a été créé à un moment donné de l'histoire. Alors, autre chose, ce qui nous est rappelé dans le verset 1, l'homme est d'une grande noblesse d'origine. Des fois, on voit, je ne sais pas moi, un train dans la rue, qui a de la barbe blanche, qui fait dur, il pue, il est tout habillé, mal sale. Mais on est porté parfois à mépriser les êtres humains qui sont dans des... Mais il faut se souvenir que les Écritures nous disent que les hommes ont été créés à la ressemblance de Dieu. On se devrait de toujours se rappeler ça dans nos esprits quand on est porté à juger les personnes trop sévèrement. Ça nous dit dans le verset 2 aussi que malgré la chute, Dieu a continué de bénir, parce qu'il dit « il le bénit », il bénit les hommes. Il continue à bénir l'homme. Autre chose qui nous est rappelée, c'est que l'homme et la femme vont servir de courroie de transmission pour l'arrivée éventuelle du Messie. Ça a pris du temps, 4000 ans. Mais pourquoi le Seigneur nous donne tous ces noms-là pour nous montrer que, là, aujourd'hui, on voit de Adam à Noé, et après ça, on va voir que ça va continuer jusqu'à ce qu'on puisse déterminer que Dieu a été fidèle pour accomplir sa promesse. Autre chose qui nous est rappelée là-dedans, c'est que dans le verset 2, l'homme est fragile et tire son origine de la poussière. Dans le verset 4, l'homme jouit, malgré sa déchéance spirituelle, d'une longue vie. Quand vous regardez, 930 ans pour lui, pour Adam, 969 ans pour Methuselah, celui qu'on appelait souvent dans le temps qu'on était catholique, Mathusalem. Il vit vieux comme Mathusalem. 969 ans. Alors, vous voyez que l'Éternel a permis que même après la chute, la durée de la vie, quand même, quand on regarde pour la plupart des gens qui sont mentionnés dans le chapitre 5, est quand même assez importante. On parle souvent des 800, des 900, et même celui qui a vécu le plus longtemps, 969 ans. Dans les versets 6 à 20, on a... c'est une liste de noms qui a pour but de nous démontrer que le Seigneur est en train de préparer le terrain pour l'arrivée du Messie. Donc, la promesse qu'il a faite, il est en train de nous montrer qu'il est en train de mettre les premiers maillons pour qu'éventuellement ça arrive. Et il fait par des moyens différents. Ce qui est important à retenir, c'est que dans Matthieu 1 et dans Luc 3, vous avez des généalogies qui ont pour but de démontrer l'origine de Christ pour montrer un aspect différent. Donc, l'importance de la notion que les hommes sont mortels dans le passage, à 5 reprises, puis il mourut, puis il mourut, puis il mourut, puis il mourut. Maintenant, les noms, ils mentionnent 10 hommes par leur nom, donc c'est comme on pourrait dire 10 générations. Et ça nous enseigne que ce que je vous parlais tantôt, de les différents, la signification des noms, et que les noms, quand on les lit de haut en bas, quand ils sont mentionnés, vous prenez les 12 noms, les mettez un en dessous de l'autre, puis vous les traduisez de l'hébreu au français, Si vous lisez les noms de haut en bas, avec la signification française des noms, vous avez l'histoire du salut. Moi, je trouve ça extraordinaire. Juste pour parler de la durée de vie des patriarches. Adam, 930 ans. Seth, 912 ans. Enoch, 905 ans. Kénan, 910 ans. Mahalaleel, 895 ans. Jéred, 962 ans. Enoch, 365. Pourquoi 365? Le Seigneur le prit parce qu'il l'a enlevé, parce qu'il marchait avec Dieu. Et Métuchéla, le plus vieux de toutes les Écritures qui mentionnent que l'homme qui a vécu le plus longtemps, c'est Métuchéla. Lémec, 777 ans. Noé, 950 ans. Et Sem, 600 ans. Maintenant, si vous prenez les mêmes noms, on prend les noms qui sont mentionnés dans un ordre précis dans les Écritures. Adam veut dire « homme » ou « poussière ». Seth veut dire « appointé ». On va faire le lien tantôt. Enoch veut dire « fragilité ». Kénan veut dire « déplorable ». Mahalaleel veut dire « le Dieu béni ». Jéred veut dire « décent ». Enoch veut dire « enseignant ». Métuchéla veut dire « mort renvoyée » ou en anglais c'est « death sent away ». La mort renvoyée. Et Lémec, conquérant. Et Noé, repos, réconfort. Et Sem veut dire nom, renommé. Maintenant, c'est parce qu'on ne fait pas l'exercice, mais quand on l'a fait, la première fois que j'ai lu ça dans un commentaire, j'ai dit, waouh, ça c'est flayé, c'est vrai. Il dit, si nous lisons la signification des noms, de haut en bas, en allant d'Adam vers Sem, nous pouvons faire un important parallèle avec l'histoire du salut. Là, je vais vous les lire dans l'ordre. Homme poussière est appointé à cause de sa fragilité, qui est déplorable, a amené le Dieu béni, qui descend, et enseignant que la mort est renvoyée, qu'il est le conquérant, qu'il est le repos et le réconfort, qu'il a un grand nom et une grande renommée. C'est pas l'histoire du salut, ça? C'est l'histoire du salut révélée dans des noms. Et quand on lit ça de cette façon-là, quand je vous disais tantôt que quand on lit les Écritures, si on lit superficiellement, on a une récompense superficielle. Mais si on lit avec attention et si on lit avec étude, là, les Écritures nous révèlent des choses qu'on n'aurait jamais découvertes par nous-mêmes. Et c'est extrêmement bénissant. Quand on découvre des choses comme ça, vous allez voir quand on va arriver dans la question du déluge aussi. Je me souviens que la première fois que j'ai fait l'étude sur le déluge, j'ai découvert ça, j'en revenais pas. Wow! Tu fais wow! Tu sais, parce que c'est là, mais on le voit pas. Mais des fois, il y a des gens qui ont plus d'études, ils connaissent l'hébreu, et là, ils nous font découvrir des choses qui nous rendent vraiment enthousiastes envers la parole de Dieu. Alors, tout ceci, bien entendu, selon moi, je suis convaincu, parce que Dieu nous dit que toutes les Écritures sont inspirées de Dieu. C'est pas un hasard. C'est là, mais souvent, à cause du fait qu'on n'a pas nécessairement étudié assez. Dieu ne nous le révèle pas, mais Dieu révèle les merveilles à ceux qui étudient sa parole avec prière et avec attention. Et c'est plein de même les Écritures. Là, je vous donne un exemple ce matin, là, mais toutes les Écritures sont remplies de choses qui nous émerveillent. Écoutez, ce matin, Gervais qui s'émerveille devant... Moi aussi, ça m'émerveille encore. Même ça fait des années que je suis sauvé, quand je relis ces histoires-là qu'il nous a partagées ce matin, je suis enthousiaste parce qu'on a un grand Dieu et on découvre cela dans la doctrine. La doctrine, ce n'est pas quelque chose d'ennuyant et de sec, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Maintenant, dans les versets 21 à 24, on voit révélatrice de la fidélité de Dieu à sa promesse. Ça dit « Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métuchéla. Enoch, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. » Donc, les versets 21 à 24 nous donnent des détails intéressants sur un patriarche avec une caractéristique importante. Il marcha avec Dieu. On pourrait dire comment ça se fait que Dieu lui enlève la durée de sa vie, 365 ans, Alors qu'il y en a un que la Bible ne dit pas que Methuselah marchait avec Dieu, puis que lui a vécu jusqu'à 969. Selon vous, la durée de la vie, quand on marche avec Dieu, puis si Dieu vient nous chercher plus jeune que normalement on devrait vivre, est-ce que c'est une bénédiction?
Oui.
Ben oui. Ça fait qu'il marchait avec Dieu, et Dieu, au lieu de lui donner une vie de 969 ans, de la souffrance, il lui raccourcit sa vie pour l'emmener avec lui. Hein? As-tu fait un bon choix de suivre? Il a suivi Dieu, donc Dieu l'a. Le Nouveau Testament nous apprend plusieurs choses aussi sur ce personnage-là, Enoch. Dans Hébreux 11, c'est le chapitre des héros de la foi. C'est comme Dieu choisit dans l'ensemble de l'histoire de la Bible tous ceux qu'il considère comme étant des héros. Donc, Enoch est considéré comme un héros, parce que ça dit, Hébreux 11.5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Jude 1.14, voyons, on en parle à plus qu'un endroit. 1.14 et 15, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui des pécheurs impies. Voyez-vous, les Écritures nous parlent de ce personnage-là qui était non seulement marché avec Dieu, mais qui prophétisait. Marcher avec Dieu, ça implique, bien entendu, une vie de foi, une vie de pleine confiance et de joie en Dieu, et qui inclut des avertissements. Si vous vivez selon Dieu, en obéissance aux Écritures, vous êtes un témoignage pour les gens. Mais si vous avertissez les gens qui s'en vont en enfer s'ils ne changent pas, dans votre témoignage, il y a non seulement le fait qu'il voit que vous avez une vie transformée, mais il voit aussi qu'il y a des avertissements que s'ils n'en tiennent pas compte, éventuellement, ils auront des comptes à rendre. Michée, chapitre 6, verset 8. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement. » Avec ton Dieu. Marcher humblement avec ton Dieu, ça veut dire que tu marches en obéissant à ce que Dieu te demande, en te rappelant qui tu es, en te rappelant que si tu es différent aujourd'hui, c'est parce que tu as reçu une grâce de l'Éternel. Donc, marcher avec Dieu, ça implique plusieurs choses. Une réconciliation, un accord, une sympathie et de l'harmonie. Amos 3.3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? N'est-ce pas qu'on ne peut pas fonctionner même dans le domaine spirituel ou même dans le domaine matériel si on ne s'accorde pas que quelqu'un n'est pas capable de travailler avec? Ça prend un minimum d'entente. Ça prend aussi une correspondance de nature. Les croyants ont une correspondance de nature parce qu'ils ont tous reçu le Saint-Esprit et ils ont aussi une aptitude morale. Ils ont aussi... On lisait un matin, d'abandonner ta volonté à Dieu, fais-en ce que tu veux, courbe mon être, prends ma volonté. Ça implique une marche avec Dieu, que ton être, tu te laisses courber par Dieu, tu te laisses dominer par Dieu, puis tu es bien content d'être dominé par lui, parce que tu sais qu'en se laissant conduire par lui, tu vas faire beaucoup mieux que tu ferais si tu essayais de te conduire par toi-même. Et ça implique, bien entendu, une communion spirituelle. Les conséquences d'une marche avec Dieu, c'est d'être agréable à Dieu. Les Écritures nous disent qu'il était agréable à Dieu et que cette marche-là, bien entendu, ne peut se faire par autre chose que par la foi. Dieu honore et récompense le marcheur fidèle. Si tu marches avec Dieu, tu vas croître dans la grâce, tu vas croître dans la connaissance, tu vas croître dans la joie, puis tu vas croître dans la paix. Et ton témoignage va être puissant devant ceux qui te voient vivre. Alors cet enseignement sur Enoch nous démontre qu'il est possible que notre foi devienne florissante, même dans les périodes où le mal grandit autour de nous. N'est-ce pas qu'on vit dans une époque comme cela d'aujourd'hui? Le mal grandit autour de nous à un niveau qu'on n'a jamais connu, mais les Écritures nous montrent que Enoch était capable de vivre et de marcher avec Dieu de façon fidèle, même malgré les circonstances difficiles qui régnaient autour de lui. Maintenant, quand on regarde les versets 25 à 32, on parle que le grand-père de Noé, c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre, donc Methuselah, 969 ans. Le passage nous révèle que le Seigneur veut nous montrer la lignée messianique jusqu'à la venue du déluge universel qui détruira les hommes sur la terre à ce moment accepté de Noé. Voyez-vous, on a d'Abraham, on se rend jusqu'à Noé. Après ça, on va montrer que Dieu a détruit, mais il a quand même continué sa grâce sur Noé, sa femme, ses trois fils et ses trois femmes. Donc, 8 personnes. Et semble-t-il qu'il y avait au-delà de 2 millions de personnes sur la Terre à ce moment-là, selon les estimations des spécialistes. Donc, 8 sur 2 millions, ce n'est pas un gros pourcentage. Alors, le nom de Noé signifie « repos, tranquillité ». Alors, bien entendu, d'après les paroles de Lémec, le nom de Noé signifie pour lui à la fois le repos et la consolation. Il dit « Celui-ci, en parlant de Noé, nous consolera de toutes nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Alors, lui, fort probablement, qui commençait à penser que Noé, vu que son nom signifiait repos, consolation, que c'était peut-être le Messie. Mais ça ne fonctionne pas de même. Ce n'était pas le Messie encore. C'était un chaînon dans l'ensemble de toutes ces choses-là. Alors, c'est donc une prophétie de Dieu concernant Christ. Il ne comprend pas, celui qui dit ça, là, les mecs, que Noé ne sera qu'un maillon de cette longue chaîne et dont l'accomplissement lui-même de l'arrivée du Messie. Alors, on vient de voir la solidité de la promesse de Dieu durant la période antédiluvienne, autrement dit, avant le déluge. Dieu permet que toutes ces choses-là que je vous ai mentionnées arrivent pour qu'on puisse considérer vraiment cette affaire-là. Avec la naissance de Noé, nous entrons dans une autre période de l'histoire qui va de Noé à Abraham. Moi, le livre de la Genèse, je l'aime plus que jamais. C'est un livre profond, qui, on l'appelle, c'est le livre des débuts, c'est le livre où on établit notre foi. Si on passe à travers le livre de la Genèse et qu'on croit tout ce qui est mentionné là, on a fait un grand pas dans le développement de notre foi. Quand on mentionnait ce matin des passages de Genèse, bon, Dieu permet que Joseph, qui était le fils préféré de son père, ses frères étaient jaloux, ses frères décident de le vendre aux... Et eux, ils faisaient une mauvaise action en faisant ça. Et Joseph subit les conséquences des mauvaises actions de leurs frères jusqu'à ce que Dieu leur mentionne que Joseph a été l'instrument pour que sauver le peuple d'Égypte. Alors, on voit la main de Dieu à travers toute l'histoire de l'individu, l'histoire de la vie de Joseph. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que si on regarde juste la vie de Joseph, et qu'on ne comprend pas que le Seigneur fait la même chose avec chacun d'entre nous, on manque l'application. Quand on lit une Écriture, ce n'est pas juste une histoire que Dieu veut nous raconter. C'est une histoire, mais une histoire qui veut nous donner des leçons. Dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, Dieu nous dit qu'il nous a donné l'Ancien Testament pour deux raisons, pour notre instruction et pour nous servir d'exemple. Alors, il nous a donné cela. Quand on lit, il faut demander à Dieu, « Qu'est-ce que tu veux me montrer ?» par ce passage-là. On peut lire Joseph, là, puis ne voir que Joseph. Mais si on lit le passage et on se pose la question, « Pourquoi, Seigneur, tu me montres l'histoire de Joseph? » Pour montrer que ta main souveraine dirige la vie des individus et que rien n'échappe à ton contrôle. Parce que, mettez-vous à la place de Joseph qui a été mis en prison. Il devait-tu se demander, « Coudonc, Seigneur, tu m'as-tu oublié? Coudonc, Seigneur, ce qui se passe, je suis dans le fond d'une prison. Et quand vous regardez la manière que le Seigneur s'y est pris pour le faire sortir, là, avec toute la question des rêves, puis tout ça, là, c'est extraordinaire, le Seigneur l'a fait sortir. Et non seulement il l'a fait sortir, qui était rendu dans la lit, ce qu'on pourrait appeler la lit de la société, quand il était en prison à cette époque-là, là, tu ne valais pas faire, comme on dit. Là. Et il le prend et il le monte deuxième après Pharaon. C'était un peu comme si tu prenais un bum aujourd'hui, là, puis tu le montrais vice-président des États-Unis d'une claque. Comme ça. Et qui est en arrière de ça? Bien entendu, c'est le Seigneur. Et le Seigneur veut nous montrer par cela qu'il est au contrôle de nos vies. Et que même des choses qui peuvent sembler difficiles à première vue comme cela, là, dans nos vies, il y a une raison à cela. Le Seigneur les permet dans ta vie pour te faire grandir, pour te corriger, pour toutes sortes de raisons. Et il nous dit que toutes choses travaillent ensemble. On a parlé de Romains 8, 28 ce matin. Romains 8, 28, là, c'est un verset qui est cité à tour de bras. Je l'ai entendu, je l'ai lu des centaines de fois. Mais le lire et le comprendre, c'est une autre affaire. Parce que si tu le comprendrais, il n'y a rien qui t'arrive dans ta vie, même jusque dans les moindres détails, que le Seigneur n'a pas décrété dans un but précis. Toutes choses travaillent ensemble dans le but de ceux qui aiment Dieu, dans la vie de ceux qui aiment Dieu. Quand on est des enfants de Dieu, ce verset-là, là, on pourrait le méditer jusqu'à la fin de nos jours. On ne l'aura pas encore compris parfaitement. Parce que si on le comprendrait parfaitement, on chialerait jamais. Même pas. Rien du tout. Parce qu'on comprendrait que c'est Dieu qui est au contrôle, qui permet les circonstances dans des buts précis, c'est de nous rapprocher de lui et de nous rendre semblables à son Fils Jésus-Christ. C'est ça que les Écritures nous enseignent. Il le fait pour nous rendre semblables à Christ. Et là, on dit comme ça, la barre est haute. La barre est très haute. Alors, je vois trois applications de ce texte-là qu'on a fait ce matin. Première application, c'est de se rappeler qu'on est mortel et qu'on se doit de se préparer à affronter la mort à cause de la fragilité de la vie. Psaume 90, les versets 3 et 10. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. C'est spécial, hein, ce verset-là. Moi, j'ai 70 ans. La Bible est en train de me dire que les jours de mes années, dans la moyenne des hommes, là, je l'ai atteint. Si je dépasse 70 ans, la Bible me dit que je suis dans les robustes. Fait qu'il y en a ici qui sont rendus à 80, vous savez, donc vous êtes des robustes. Mais la Bible nous dit aussi l'orgueil qu'il nous en tire n'est que peine et misère. Donc, plus on vieillit, plus il y a des petites choses qui s'installent dans nos vies qui rendent la vie, des fois, un petit peu moins agréable. La maladie, toutes sortes d'affaires. Alors, et la deuxième, donc, à quelque part, se rappeler que la vie, normalement, la Bible nous dit que 70 ans, ça devrait être la durée de la vie. Si on dépasse, la Bible dit qu'on est des vigoureux et on doit rendre grâce à Dieu pour cela. Et la deuxième application qu'on peut faire à partir de l'étude du chapitre 5, est-ce que, comme Enoch, nous marchons avec Dieu, avec tout ce que cela implique? Troisième application, est-ce que nos personnes reflètent l'œuvre du Messie Jésus-Christ dans nos vies? Et témoignons-nous avec fidélité son glorieux salut autour de nous chaque jour? Je ne me souviens plus quel passage dans les psaumes, nous dit qu'on se devrait de témoigner de Jésus tous les jours de notre vie. Combien de fois on manque le bateau en ne témoignant pas autour de nous? Pourtant, les occasions sont comme ça, là. Alors, apprenons, Enoch sûrement qui marchait, c'est pas juste sa marche, ça nous dit aussi qu'il prophétisait qu'il y aurait, on a vu un passage tantôt qui nous disait qu'il y avait des avertissements à l'intérieur de sa prophétie. Il devait parler du Seigneur. Son témoignage personnel démontrait l'authenticité et la vérité de sa foi, mais aussi le fait qu'il les avertissait, s'il n'en a pas tenu compte, après, ça devient leur problème. Alors, on termine en disant que notre grand Dieu soit béni, loué et adoré pour notre glorieux Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.